enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Les dossiers prioritaires dans le monde en matière d'espace. Thierry Garcin, bonjour.
Voilà, avec notre invité Xavier Pascaux, dans un instant, le temps évidemment de préciser que nous reviendrons sur l'attentat dénoncé à Manchester, donc par la première ministre britannique, attentat dans une salle de spectacle, pour sortir d'une salle de spectacle, donc dans la nuit, hier soir, exactement. Voilà, on revient sans transition, évidemment, à l'espace. Xavier Pascaux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes spécialiste de l'espace en général, de l'espace américain en particulier, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez publié aux éditions du CNRS tout récemment un ouvrage intitulé « Le nouvel âge spatial » avec évidemment un sous-titre plus précis de la guerre froide au New Space. Vous allez nous dire évidemment ce que c'est que le New Space. L'espace extra-atmosphérique est l'un des milieux les plus stimulants, en tout cas pour l'amateur de géopolitique, à cause de la nature du milieu. Hergé ne s'y était pas trompé. Et puis parce que l'aventure est au cœur des hommes, il y a la volonté des États, l'établissement de projets à long terme, les industriels jouent un rôle clé compte tenu des défis techniques considérables, surtout à l'origine, et des sommes engagés mais non des bénéfices assurés. On pourrait également rappeler le lien plus que serré entre l'espace civil et l'espace militaire, les applications dans le domaine essentiel de la dissuasion nucléaire, puis la nécessité, alors ça c'est une clé depuis des décennies, la nécessité de la coopération internationale. On voit que vraiment c'est comme objet, en tout cas pour l'amateur géopolitique, c'est un objet absolument idéal parce qu'il est à la fois futuriste, il est à long terme, enfin c'est aussi un laboratoire.
Oui, c'est un laboratoire depuis... D'abord, c'est un objet assez jeune quand même. C'est quelque chose qui est né dans les années 50. C'est né de la guerre froide.
Vous allez me dire, Xavier Pascaux, j'ai noté que Spoutnik, quand même, c'est un événement mondial dans ce domaine. C'est exactement 57-60 ans.
C'est ça.
Je ne sais pas si vous l'avez, si on célèbre cet anniversaire.
On va le célébrer. On va le célébrer. Oui, il y a tout un
je ne sais plus quand c'est dans l'année 57.
C'est le 4 octobre.
Vous êtes vraiment spécialiste de l'espace.
Voilà. C'est une date qui a marqué tous les scientifiques et les gouvernements. Ça reste un objet jeune. On regarde l'histoire de l'humanité, évidemment. Et c'est quelque chose qui est né d'une situation très précise, qui était la situation de la guerre froide. Et en particulier, du fait qu'on avait peur au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'avènement des missiles et de l'arme nucléaire, qu'il y ait une arme nouvelle qui soit dévastatrice, soit une arme surprise. Donc on voulait éviter la surprise, et pour éviter la surprise, on a beaucoup réfléchi, notamment aux États-Unis, mais aussi en Union soviétique, et on s'est dit que si on envoyait un objet très haut, équipé d'un appareil photo ou d'une caméra, on pourrait essayer d'espionner ce que fait l'autre, et voir s'il est en train de mettre en place ses fameux arsenaux balistiques. C'est né de ça, et ça reste aujourd'hui une préoccupation majeure pour tous les programmes militaires spatiaux. Mais évidemment, l'espace, c'est bien, bien autre chose que ça. La course à la Lune a été aussi un objet de guerre froide. Les politiques sont pas aller sur la Lune simplement pour le plaisir d'y aller, c'est parce qu'il y avait une compétition entre deux blocs, entre deux modèles de société.
Et une coopération, parce qu'en 75, je me rappelle, Apollo-Soyuz, un homme soviétique, un homme américain, se sont, je crois, serré la main dans l'espace.
Deux équipages, se sont serré la main dans l'espace. La rencontre entre Apollo et Soyuz, ça a été très compliqué.
Il faut aller au musée de l'espace à Moscou pour voir le côté grandiose. C'était une aventure aussi géopolitique.
Absolument, c'est Nixon qui a, du côté américain, qui s'est dit que finalement, après Apollo, Apollo avait manifesté la victoire des États-Unis sur l'Union soviétique en termes de symbolique, finalement. Et donc, pour les États-Unis, il n'y avait plus de course. La course était finie et donc c'était le temps de la coopération. Il faut savoir que Kennedy a essayé d'aller vers la coopération pendant Apollo, mais ça n'a pas pu se faire. Les années 60 étaient quand même des années de confrontation. Mais l'espace est resté symbolique. Et puis, on a eu la station spatiale ensuite, qui a été l'une grande réalisation de Ronald Reagan, on va dire, en tout cas dans la décision qu'il a prise de lancer ce programme. Il y avait aussi une dimension très idéologique. Là, c'était l'idée de célébrer la libre entreprise dans l'espace et de
pousser dans les corps de l'Union soviétique aussi, avec le bouclier antimissile.
Alors, ça, c'était en parallèle, effectivement. Donc, tout ça était quand même extrêmement politisé, politique, symbolique. Et puis, avec la fin de la guerre froide, évidemment, l'espace a pris, si j'ose dire, un coup de vieux. On a bien vu que tous ces grands programmes peinaient à être soutenus, à être financés. Ça reste aujourd'hui quelque chose qui est en question. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu depuis 20 ans, finalement? C'est l'avènement de nouveaux pays spatiaux. La Chine, l'Inde ont des ambitions de manière aussi symbolique, en réalité. Si la Chine met des taïkonautes en orbite aujourd'hui, c'est aussi pour montrer qu'elle est une grande puissance.
Et elle veut d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours le cas, en tout cas, elle voulait ces dernières années même marcher sur la Lune, comme l'avaient fait les Américains en 69.
C'est ça, elle affiche toujours cette ambition-là. D'ailleurs, ça pose un petit problème aux États-Unis aujourd'hui, qui se disent quand même, si les Chinois vont sur la Lune, il faudrait peut-être qu'on y retourne, donc ils y repensent. Mais enfin, ça n'est pas très clair. Et puis, on a l'avènement de nouveaux acteurs. Alors ça, c'est tout à fait nouveau.
Depuis quand environ?
Depuis les débuts des années 2000, en fait. Toutes ces entreprises, ces nouvelles entreprises entreprises spatiales privées sont nées aux alentours de 2000-2002, avec des grands acteurs de l'Internet qui viennent pas du tout du monde spatial, qui sont des gens jeunes, qui ont beaucoup d'argent, qui manient des volumes financiers très importants et qui voient dans l'espace, pour certains, un développement, un moyen de développer leurs activités, et pour d'autres, finalement, un moyen de transmettre leur vision du monde en dehors des visions étatiques.
Xavier Pascaud, je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur du Nouvel Âge Spatial aux éditions du CNRS. Le lien entre l'État, au sens puissance publique, et l'entreprise privée reste essentiel dans l'espace.
Ça reste clé, et c'est vraiment ce qu'on peut mettre en évidence quand on regarde ces questions-là, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ces nouveaux acteurs existent. Ils créent de facto un équilibre nouveau auquel s'adapte l'État. Et en particulier aux États-Unis, on a effectivement une forme d'adaptation qui est en cours de l'investissement étatique qui se dirige d'un côté vers les agences spatiales classiques, mais qui sont de plus en plus, je dirais, périmétrées dans leur action, et puis bien qui s'intéressent à ce secteur privé qui crée un nouvel afflux de ressources, finalement, et qui essaye d'aider ce secteur privé très, très clairement. Elon Musk, aujourd'hui, le fameux directeur dont on entend beaucoup parler, directeur de SpaceX, cette nouvelle société, SpaceX n'aurait pas existé sans le soutien de la NASA. Et SpaceX, aujourd'hui, est quelque chose de différent de la NASA, qui suit son cours et qui envisage aujourd'hui d'aller sur Mars, par exemple.
Voilà, donc ce lien reste important, renouvelé. C'est pour ça que vous parlez de New Space.
Voilà, alors c'est le terme à la mode aux États-Unis, hein, on parle de New Space, c'est-à-dire que ce n'est plus l'espace, nous dit-on, qui serait l'espace traditionnel de l'État, ce serait un espace qui viendrait d'ailleurs, qui viendrait de l'Internet, qui viendrait des systèmes d'information. Quand on regarde bien, en réalité, il y a des New Space, hein, selon les modes de financement. Et puis évidemment, l'espace reste quand même très imbriqué dans le projet politique.
Alors, nos auditeurs vont nous en vouloir si on ne parle pas de l'Europe, puisqu'on a été quand même à la pointe, ne serait-ce que pour l'espace civil, évidemment, l'espace militaire, bien sûr, britannique et français, mais l'espace civil, donc Ariane.
Voilà, alors ça, c'est effectivement pour l'Europe qui prend acte de ces évolutions, il y a la nécessité de s'adapter. L'Europe réagit à cette situation et elle réagit dans différents domaines. Elle réagit dans les domaines des lanceurs d'abord, vous l'avez dit. Ariane aujourd'hui a besoin d'être moins chère. On a, dit-on, le besoin de la rendre plus compétitive, même si en réalité sur le marché des lanceurs, il y a beaucoup d'interférences. On n'est pas dans un marché, je dirais, dans une concurrence pure et parfaite. Les États y investissent et les États y subventionnent évidemment chacun leurs activités. Mais bon, l'Europe a besoin, s'est trouvée un petit peu mise sous pression, je dirais, par ces évolutions qui sont des évolutions qui se passent outre-Atlantique, aux États-Unis essentiellement, et qui commencent à se passer aussi, on le voit un peu, en Chine ou ailleurs. Donc l'Europe a besoin de s'y adapter, c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est évidemment, ça nécessite un changement, une réadaptation du tissu industriel, réadaptation, et puis au niveau de l'Europe, évidemment, des relations entre les États membres. Il faut un accord collectif pour lancer les choses. En même temps, l'Europe veut son autonomie d'accès à l'espace.
Il faut rappeler que Galileo, évidemment, profite de l'Union européenne, mais qu'en revanche, Ariane n'a rien à voir avec l'Union européenne, ou la CE plutôt de l'époque.
Alors voilà, Ariane est essentiellement soutenue à travers l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, qui n'est pas une agence de l'Union européenne, mais on a quand même un ensemble de pays qui décident politiquement, évidemment, des fonds qui sont alloués à Ariane.
Juste d'un mot, mais vraiment d'un mot pour conclure. L'homme dans l'espace, on n'a jamais compris à quoi ça servait, mais c'est ça vraiment l'intérêt.
Alors, pour l'Europe, ça a toujours été un petit peu... On s'est plutôt construit sur l'intérêt scientifique d'aller dans l'espace, et on a toujours vu ça d'un peu loin en Europe, pour les grands pays que sont les États-Unis, la Russie, la Chine ou même l'Inde éventuellement, même si aujourd'hui l'Inde regarde ça d'un peu plus loin, ça demeure quand même un marqueur symbolique de pouvoir politique, ça reste encore vrai.
Et puis on ne l'a pas dit, mais effectivement l'espace nous intéresse tous dans la vie quotidienne pour toutes les applications qui retombent sur Terre.
Voilà, et on voit de plus en plus de marché potentiel émerger aujourd'hui avec les techniques de l'information qui nous envahissent.
Xavier Pascaud, donc le Nouvel Âge Spatial et directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je demandais à l'instant à notre camarade François Angelier la date de parution. Moi, j'étais incapable de le dire, d'Objectif Lune et on a marché sur la Lune d'Hergé.
53-54.
Vous êtes aussi un expert.
Voilà. Vous avez le droit de revenir demain, François.
Youpi. Et donc, voilà. Et puis nous nous retrouvons demain, bien sûr, à 6h45.